France Inter.
Là, si vous marchez un petit peu par là, vous allez tomber sur un cos.
CO2, mon amour.
Caractéristique avec des petits chênes, des genévriers, etc. Et vous remontez de l'autre côté, vous avez commencé à voir les vignes qui descendent vers la vallée du Lot.
Denis Chessoux.
Donc ici, en marchant quelques kilomètres, vous passez d'un monde à un autre, à un environnement, à un milieu de vie complètement différent.
Ça ne pouvait que vous plaire, ça.
Oui, ça ne pouvait que me plaire, bien sûr. Oui.
Sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, et à la nature qui chuchote à vos oreilles. C'est bien CO2 de mon amour avec la voix de Philippe Descola pour cette deuxième semaine. Nous travaillons aujourd'hui avec Pauline Laverdure à la technique. Notre collaborateur, c'est Pierre Chabert, et c'est Julie Degou qui réalise l'émission. Qui commence par une petite humeur. Alors, il y a les braves cons, les pauvres cons, mais aussi les sales cons. Eh oui, de l'espèce de ceux qui tuent pour jouer par plaisir, pour se désennuyer, qui braconnent et se croient au-dessus des lois. Et tout doit y passer, chamois, chevreuil, vautour, aigle ou pigargue à queue blanche. Morzine est morte en Oisans il y a une dizaine de jours, une balle en pleine poitrine. Alors vous ne connaissez pas Morzine, c'est le nom d'un très grand oiseau, car la station éponyme a financé sa balise GPS. Le pigargue à queue blanche est quasi inconnu du public, et c'est normal, il ne joue pas en équipe de France, ne se produit pas au zénith de votre ville. Non, ce rapace avait disparu de France depuis 1959. Et certains fous de nature sauvage s'ingénient depuis des années à lui redonner droit de cité en France et dans les Alpes. Il a fallu deux malfrats pour lui régler son compte un jour d'ennui. Presque 3 mètres d'envergure, donc c'est quand même assez difficile de le confondre avec un étourneau. Si ces deux criminels du vivant s'étaient renseignés, ils auraient appris que le bel oiseau était équipé et suivi à la trace par des enfants et des scientifiques qui ont pu ainsi retrouver son cadavre grâce à son collier émetteur. Et l'OFB a très bien fait son travail. Bravo à ses agents qui ont remonté la piste en traçant leur portable. Donc, fini l'impunité des lâches. On a déniché les deux emplumés dans leur repère qui ont avoué leur fait. Ils vont donc payer la note et peut-être que leur faire porter aussi en montagne les caisses des oiseaux à réintroduire serait une très salutaire approche de l'ornithologie et des difficultés qu'il y a pour remettre en place péniblement des oiseaux dans leur milieu, dans l'enthousiasme d'une riche biodiversité montagnarde. Alors, le visage radieux de ces deux frères ne feront pas la une des médias. C'est dommage parce qu'on aimerait tant savoir à quoi ça ressemble de con. Et puis, cette semaine, c'est la fête de l'eau et celle des forêts. Les deux sont liés, ruisselles de feuilles en nuages, puisque les forêts, ce sont les rivières du ciel. Deux tiers des pluies viennent de la terre, des forêts. Et dans l'eau, l'au-delà, dans l'eau du ciel, dans ces deux atomes d'hydrogène et cet atome d'oxygène, il y a juste la vie. Dans les forêts inquiètes, il y a le chaud qui couve, les arbres ont soif. Les scolytes font aussi la fête, et puis jamais très loin, la folie des incendies. La graisse des tronçonneuses n'est pas la brillantine des dieux, forêt rasée de trop près ou qui fabrique des chemins creux. Mais du bois, pardi, bah oui, il en faut, qui partira en Chine, qui sortira la raboteuse, et reviendra en lamelles de parquet ciré, au grand bal pour danser, au grand bal de la mondialisation heureuse. Les arbres du printemps s'habillent d'oiseaux, de lucanes, d'écureuils roux, de piquets-pêches, de gélinottes ou bien de vieux hiboux. Partition du vivant, clé de sol de notre sol, la forêt climatise nos rêves. Elle abrite des sorcières, des petits chaperons rouges, des Hansel et Gretel, des fées, des lutins. Elles font jaillir des loups, l'histoire de notre enfance et celle des champignons malins. Alors la forêt compte, mais en 100, en 1000 ans, le temps est son amant. Elle compte avant tout sur elle, elle fait tout. Toute seule, les bras, les branches remplies de force, en accueillant bien volontiers des Théodore Rousseau, des Thomas Braille, des Chico Mendes, des gens de la même écorce. Et coule, tournoie, circule et grimpe par les racines pompées, l'eau nourricière repartira en rosée, brouillard, rivière, au-dessus de la canopée. Alors certes, les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent, merci Alphonse ou bien un autre, mais elles garderont assez de troncs, de fûts, de branches pour abriter et faire fleurir la vie dessus ces arbres morts. Après les guerres de l'eau, les batailles ont son nom, elle retrouvera le chemin des sources, le chemin des nuages, le grand flot de la mer et celui des forêts. Alors merci l'eau, merci les forêts et belle fête là-haut à votre fête. Merci aussi donc à Philippe Descola qui nous attend au bord de sa forêt, à la lisière des mots.
Texas, oh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus, oh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, 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 round. Stick around. And I'll be damned if I can't slow dance with you. Ooh. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right. We headed to the dive bar we always thought was nice. Ooh, run me to the left. Then spin me in the middle, boy, I can't read your mind. This ain't Texas. I'll be damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a, come take it to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh.
Elle débute, alors faut l'aider évidemment, c'était Beyoncé, non mais c'est pas mal du tout, hein. C'était du country, vous l'avez très bien compris. Et maintenant nous partons dans le Lot rejoindre Philippe Descola.
Une des choses que les Lumières ont ignorées, c'est des manières de faire monde qui sont très très différentes des nôtres.
Ouais.
Et l'universalisme des Lumières a non seulement ignoré la nature, mais a ignoré aussi toutes ces civilisations autour de nous qui étaient conçues comme ayant des points de vue limités sur le monde, des cosmologies toutes particulières, mais, et ça c'est les anthropologues qui nous l'apprennent, qui contribuent aussi à la richesse de l'humanité, à sa diversité, par les capacités d'invention qu'elles ont manifestées dans leur façon de combiner humains et autres qu'humains. Et je pense que c'est le fait d'être anthropologue m'a poussé dans la voie que j'ai suivie, et c'est-à-dire à utiliser la stimulation intellectuelle que nous donnent ces autres cosmologies pour essayer de penser à un monde dans l'avenir qui serait différent de celui que nous connaissons.
Et Philippe Descola donc vient de sortir il y a quelque temps donc avec les chasseurs-cueilleurs édité chez Bayard, c'est pour les jeunes et c'est aussi pour tout le monde. Alors retour dans ce département du Lot, dans cette bourriane, à quelques kilomètres au-dessus des vignes de Malbec, Champollion, homme de Figeac, découvrait le mystère des hiéroglyphes et Descola, enfant, découvrait le mystère de la nature, ici simple et puissant qui ne la quittera plus. Alors ce sont des pierres sèches, des calcaires sortis des champs, des carrières qui font les murets, les maisons, les gariotes, les abris de bergers. C'est du temps évanoui et un avenir qui se construit loin de la folie des ruches humaines. Alors pessimisme de la lucidité et volonté de l'action, eh ben ça va bien à Descola et à sa compagne, aussi anthropologue, Anne-Christine Taylor. Nous sommes chez eux à peu près à 250 mètres d'altitude, il faisait frais et beau. Le soleil aussi écoutait cet homme qui nous éclaire. Charme, chêne, pubescent, châtaignier, une belle armée du vivant. Deuxième partie, le chercheur et le citoyen, l'homme engagé, toujours amoureux du Lot en Occitanie.
On fait des ethnologues, des relativistes complets, mais en fait, quand vous êtes transplanté dans un monde très différent du vôtre, vous apprenez, vous découvrez beaucoup mieux en fait ce qui compte pour vous, dans ce qui vous manque. Et parmi les choses qui me manquaient, certains livres, la musique et des choses comme ça, il y avait aussi des paysages. Et donc, j'ai à ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était un certain type de paysage que j'aimais, qui étaient au fond globalement les paysages qu'on a ici, hein, les paysages du sud de la France, ces alternances de vallées, de collines, ces villages sur les hauteurs. Voilà, c'était des choses qui...
Au-delà de dire c'est beau, c'est harmonieux, simplement, on se sent bien, tout simplement.
Mon premier travail de terrain, en fait, ici... Je l'ai fait ici avec ma compagne.
C'était un ethnologue.
Qui est ethnologue aussi. C'était un travail d'étudiant. On nous demandait de partir un mois quelque part en France et de faire une enquête ethnographique. Et donc je l'ai faite dans le village voisin, c'était pas à Goujounac mais à Pomarède. Ouais. Et on a passé un mois, je connaissais bien, puisque mes parents avaient cette maison.
Ouais, c'est ça.
Donc je connaissais les gens et je me suis... essayer à faire une chose qui est très difficile, qui sont des budgets de ménage.
Ah oui.
C'est-à-dire pour voir comment les gens se débrouillaient. Et en fait, il n'y avait pratiquement pas de circulation d'argent. Il y avait des échanges entre les unités paysannes et puis certains produits qui étaient vendus, le vin... des coupes de bois.
C'était pas l'argent qui circulait, c'est-à-dire qu'il y avait de l'échange, il y avait du troc.
Il y avait très peu d'argent qui circulait, il y avait un accord avec l'épicerie du village, les gens y amenaient des produits, en échange on avait de l'huile et du sel, et donc c'était une économie de subsistance qui est pas tellement différente de celle que j'ai pu observer en Amazonie d'une certaine façon. Et tout ça a disparu brutalement il y a une quarantaine d'années.
D'ailleurs, ce qu'on nomme richesse est tout à fait différent lorsque l'on est donc ici, en pays occidental, et puis dans d'autres régions du monde. Quoi.
La grande différence, c'est que pendant longtemps, dans le reste du monde, il y avait des circuits de circulation des biens qui étaient indépendants les uns des autres. Autrement dit, il y avait des biens qui étaient des biens de prestige, des coquillages, des cories, des métaux, des parures, des choses comme ça qui circulaient et qui étaient le fondement de la richesse, alors que les biens de subsistance, il était inconcevable d'en faire commerce. Ah. La grande nouveauté du capitalisme industriel est le fait que, par exemple, ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, à savoir que la terre et le travail sont devenus des valeurs marchandes, a abouti au fait que il a commencé à y avoir une répartition inégalitaire des biens de subsistance et de la possibilité de l'accumulation des biens de subsistance qui tranche complètement sur d'autres formes de richesse ailleurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de richesse ailleurs, mais ce n'est pas le même genre de richesse. Ce n'est pas une richesse qui dépossède les gens de la capacité de subsister. Un grand mouvement d'accaparement que le 19e siècle a connu en France, qui est l'accaparement des landes.
Ah oui, c'est très intéressant, parce qu'en fait, on nous a vendu Napoléon III, qui disait, bon, ce lieu est insalubre, donc on va le planter. Avant, donc, on avait ces bergers donc, avec des échasses, hein, c'était ça.
Voilà.
Et la réalité est un peu plus subtile.
Mais la réalité est subtile, c'est-à-dire qu'on a confisqué aux communes l'usage de ces communaux, c'est-à-dire de ces prés communaux qui permettaient le pâturage des moutons. Et on a vendu aux enchères ces communaux à des grands bourgeois et du Bordelais et de la région parisienne qui ont acheté des parcelles pour les planter en pin. C'est donc véritablement un hold-up des communaux, l'un des derniers grands hold-up de communaux qu'il y a eu en France.
Le Lotois est plus raisonnable, hein, manifestement.
Alors,
mais c'est vrai. Alors, peut-être qu'il a pris des coups différents, etc. Et qu'il y a une notion d'adaptation aussi qui est là, qui est peut-être plus dans l'individu. Quoi. Enfin.
Oui, alors peut-être que d'une certaine façon, le Lot a bénéficié d'un environnement plus pauvre. C'est un milieu de vie dans lequel... Il faut se battre davantage. Alors peut-être, il y a des champs de maïs, il y en a de moins en moins ici. Et donc il fallait utiliser les terres au mieux de leurs capacités, qui n'étaient pas très grandes. D'où une caractéristique qui en fait s'est étendue au-delà du Lot et caractéristique du sud-ouest de la polyculture. Les fermes étaient fondées sur l'usage d'un très grand nombre de ressources différentes, que ce soit un petit élevage, il y avait du mouton, il y avait de l'élevage bovin, il y avait de la vigne. Il y avait un peu de maïs et surtout quelques céréales, un peu d'élevage maraîcher, etc. Et donc tout ça formait une économie qui était quasiment en autosubsistance.
Oh, un petit écureuil là, hop là.
Alors en se promenant, on voit, oui, il y a des renards, des écureuils, des martes. À chaque fois que je vois... un animal comme ça qui vit dans sa petite vie indépendante dans les interstices du monde humain, ça me réjouit parce que j'ai l'impression que ça continue. De ce point de vue-là, je ne suis pas trop un intrus puisqu'il ne me remarque pas. J'essaye de me faire discret.
Ah, alors là...
Alors ça, c'est un faux puits.
Ouais.
En fait,
c'est un faux puits.
C'est une réserve d'eau qui est alimentée par l'eau pluviale.
D'accord.
Et qui alimente à la fois ce qu'on appelle le lac, c'est-à-dire cette mare.
Ouais. Là, ça va couler, c'est ça l'idée ?
Non, c'est que l'eau, au lieu d'alimenter...
Ah, compris.
Elle peut alimenter soit le lac, soit cette...
Ouais, c'est une dérivation.
Ce qui est un puits et qui est en réalité une citerne.
D'accord. Voilà. Vous avez du batracien, là, j'imagine.
Oui, ah, oui, oui.
Ça va être sympa, ça.
Je ne sais pas, ils devraient être là et profiter du soleil, comme c'est souvent le cas en ce moment. On ne les voit pas.
Vous pouvez sortir. On ne va pas vous écraser avec une voiture, déjà. Bonne nouvelle. Ni avec mon vélo, donc c'est bon.
Oui, donc il y en a plein, normalement.
Normalement, il y a ce qu'il faut.
Heureusement, d'ailleurs, parce que sinon, on serait envahis.
On serait envahis par les moustiques, oui.
Il y a quand même besoin d'être curé, effectivement.
Oui, peut-être. C'est quand même bien dire. Bon. Dites-moi, chère madame, vous avez fait de l'ethnologie ici ou pas ?
Oui, à vrai dire, oui. Nous avions fait ce qu'on appelait à l'époque un terrain didactique dans le Lot, tout près d'ici, à Pomarais, dans le petit village dans le Dépendant. Et c'était absolument passionnant. Ça a beaucoup changé depuis. Mmh. À l'époque, il n'y avait pratiquement que des gens très âgés qui restaient dans le village. Maintenant, les enfants, surtout les petits-enfants, sont pas mal revenus. Mmh. On trouvait des emplois dans le tertiaire, etc. Le Lot est un département avec un... Et depuis très longtemps, un très haut degré de niveau d'éducation. Et donc, beaucoup des jeunes qui étaient partis ont fait des études supérieures, etc., et travaillent maintenant dans le tertiaire. Et donc, le pays se repeuple un peu, et surtout se réanime avant tout.
La voix de Anne-Christine Taylor. Restez avec nous parce qu'on va s'intéresser aussi aux engagements aux citoyens Philippe Descola. Mais avant, un petit déjeuner, et pas n'importe où.
Les deux ont déjeuné sur l'herbe et moi j'en avais fumé un peu à travers mes paupières entrouvertes l'air bleu ton visage à l'envers sur ton buste un baiser que tu me donnes à boire à se croire dans un tableau d'Auguste Renoir. Un chardonneret qui sifflote dans l'eau, un bouchon qui flotte, ma plume qui pêche à la ligne, un verre, un signe. Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. Tu me disais, je t'aime, que ce verbe m'émeut. Donne-moi encore ta bouche qu'on déguste l'eau de vie de pomme, de prune, de poire, dans la toile étoilée de l'auguste Renoir. Gorge qui s'y flotte dans l'eau, un bouchon qui flotte, ma plume qui pêche à la ligne, une plume de cygne. Tous les deux ont déjeuné sur l'herbe, et moi j'en avais fumé un peu. Dans mes yeux, un triangle superbe. Tes yeux, puis le soir obscurcit la pelouse, pour l'oiseau laissons les gâteaux secs, c'est parfait, on repart à Toulouse, Lautrec.
Papaya de vrai. Eh oui, Nougaro est donc le Lot, une véritable couleur occitane aujourd'hui dans CO2 Mon Amour. Alors en fait, ce modèle ne peut pas vraiment accueillir, on se rend compte aujourd'hui, les rivières, les pollinisateurs, les forêts, que sais-je. Il ne s'agit pas de faire de la démocratie avec les bactéries, hein, comme le dit Descola, mais de trouver un peu autre chose, ce qu'il appelle de l'alterpolitique. Comment en est-il arrivé à l'écologie ?
Alors, moi je lisais, comme certains de mes contemporains, des penseurs écologiques de l'époque, c'est-à-dire Gors et Ellul, Dumont, des choses comme ça. Donc j'étais conscient que c'était une chose importante, et j'étais un militant aussi, comme beaucoup de gens de ma génération, d'extrême gauche, et j'étais frappé par le fait que dans les cercles militants, c'était quelque chose qui n'était pas du tout important. On considérait que c'était secondaire, qu'une fois qu'on aurait fait la révolution, tout allait se régler très bien. Or, ce que montrait l'exemple de l'Union soviétique ou de la Chine, c'était pas vraiment cela. C'est-à-dire que la révolution n'avait pas abouti à des rapports harmonieux avec la nature.
René Dumont.
La recherche d'une nouvelle conception de vie, qui est notre recherche, rejette résolument toute la tradition économique française qui débute avec la révolution industrielle, qui cherche à transformer le monde en augmentant la puissance des hommes sur le monde. C'est l'héritage de l'Évangile, croissez et multipliez et dominez le monde. Or, nous renonçons à ce que l'homme domine le monde. Nous estimons que l'homme doit vivre dans le monde, à côté des espèces vivantes, plantes et animaux autres que lui, sans vouloir les dominer, de façon à maintenir un monde vivable pour les générations futures.
Alors, comment on peut faire ? Est-ce qu'on a une troisième voie ? Bon, on a eu donc le capitalisme au XVIIe, XVIIIe, on a eu au XIXe siècle l'avènement du socialisme. Une des dernières idées neuves, ça a été l'écologie, donc ça c'était au XXe siècle, qui fait pas... Alors en même temps, il y a des tas de choses qui sont arrivées sur la table, mais enfin ça fait quand même pas florès d'un point de vue politique. Voilà, donc vers quoi arriver pour modérer notre côté insatiable d'être humain ?
Alors, je pense qu'il y a à la fois des réponses individuelles et des réponses collectives. Ouais. Les réponses individuelles, c'est d'essayer de se faire à la frugalité. Ça suppose de transformer et de modifier nos désirs, en quelque sorte. C'est qu'est-ce que nous voulons vraiment dans la vie ? Est-ce que nous voulons plus de week-end à Marrakech ? Est-ce que nous voulons plus d'un écran plat dans chaque pièce de notre maison ? Est-ce que nous voulons...
Juste être dans le Lot, quoi.
où est-ce que nous voulons ? Ben oui, j'ai un potager, donc ça me fait grand plaisir de cultiver mes tomates, des choses comme ça.
frugalité, sobriété heureuse, bon, cher à Pierre Rabhi qui a inventé ce mot-là, ne plus être dans l'abondance, ne plus être dans la connexion de tout et de n'importe quoi.
De considérer que l'abondance, c'est pas simplement l'abondance des biens matériels.
Oui, c'est ça.
Je dis souvent à mes étudiants, lorsqu'on m'interroge sur le progrès, je dis, regardez les aborigènes australiens, en termes d'artefacts, d'outils, l'ensemble de la culture matérielle des aborigènes australiens tient dans une vitrine au Musée de l'Homme, alors que leur culture intellectuelle, c'est-à-dire ce qu'ils ont pensé, ce qu'ils ont imaginé, les formes d'organisation collective, les cosmologies, les manières de faire monde qu'ils ont imaginées, tiennent dans des bibliothèques. Ce sont des centaines, des milliers de livres, de monographies. Donc la culture matérielle et la culture intellectuelle, ce sont des choses assez différentes. Et il ne faut pas juger l'état de civilisation par la culture matérielle, c'est-à-dire par l'abondance et le raffinement technique des objets que nous utilisons, mais aussi par la culture intellectuelle, c'est-à-dire parce que nous sommes capables de penser et de faire pour faire monde collectivement.
Elles naissent comment les pommes de terre, Walumama ?
Voilà une question très intéressante. Voyons voir si notre petite Naïra peut y répondre, puisqu'elle se prépare à entrer bientôt dans le monde des grands.
Les pommes de terre poussent dans nos champs, tout comme le maïs et le quinoa. Ce sont d'abord de toutes petites graines. Pachamama les porte dans son ventre. Elle les nourrit et les protège jusqu'à la saison des récoltes.
Comme une maman le fait avec son bébé. Et oui, nous sommes tous des enfants de notre Pachamama. C'est pour cela qu'il nous faut l'honorer et l'aimer autant qu'elle nous aime.
Au-delà des efforts que nous devons faire sur nous-mêmes pour arriver à transformer nos désirs pour avoir une existence épanouie, eh bien, il y a aussi des solutions collectives. Alors, pour le moment, elles sont expérimentales, mais je les trouve très intéressantes. Je me suis beaucoup intéressé aux ZAD, en particulier à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Au départ, ce sont des projets de lutte contre des aménagements inutiles, pharaoniques et destructeurs des milieux de vie.
Mais ça va plus loin.
Mais qui vont beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'ils se sont transformés en des formes de vie collective, en étroite connivence avec des milieux de vie. C'est très frappant, en particulier à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui... au départ, comme dans beaucoup d'autres ZAD, les militants qui sont venus là pour protester contre la construction ou empêcher la construction d'un aéroport, on a ça pas très loin d'ici avec la 69 pour empêcher la construction d'une autoroute à l'évidence complètement inutile, ce sont des gens qui sont des militants, assez souvent des urbains, qui ont l'habitude des squats urbains, etc., et qui n'ont pas d'affinité immédiate avec le bocage ou avec des forêts du Tarn, et qui, petit à petit, et c'est le cas à Notre-Dame-des-Landes, ont fini par développer une identification profonde avec ce milieu de vie tout à fait particulier qu'est le bocage, avec les zones humides qu'il contient, au point de vouloir y faire leur vie, et considérer, au fond, qu'ils sont hébergés par un milieu de vie qui leur permet d'être vivants, et d'être vivants de façon digne, sans, évidemment, le détruire, le transformer profondément.
Donc une façon différente de vivre localement.
De vivre localement dans des territoires qui ne soient pas une destruction de ces territoires, mais qui soient un accommodement avec certaines des caractéristiques de ces territoires. Et ça, c'est quelque chose de très original. Il y a des paysans qui font ça, hein, un peu partout, en France aussi. Ce n'est pas la majorité, malheureusement, mais il y en a beaucoup qui sont, et en particulier ici, tout autour de nous, dans cette très belle Bouriane, mais ça n'est pas la majorité. Donc,
comment on fait pour que ça puisse atterrir globalement ? Mais en fait, globalement, on n'a pas du tout envie, ce système n'a pas du tout envie que ça atterrisse, ces affaires-là.
Alors, je pense que plus il y aura d'expériences de ce type-là, plus ça va attirer l'attention. On peut pas éternellement dire ces gens-là sont des éco-terroristes. Il arrive même que des gens de gauche arrivent à dire ça, ce qui est quand même profondément étonnant. Il faut aller voir sur place et parler avec eux pour savoir de quoi il s'agit et pas simplement faire des jugements péremptoires en quelque sorte sur ces modes de vie. Donc la contamination par l'exemple, ça joue un rôle important parce que pour revenir à Notre-Dame-des-Landes, effectivement, c'est très peu de monde, c'est moins de 200 personnes, mais il y a énormément de gens qui viennent voir ce qui se passe et qui sont inspirés.
Puis toutes les grandes idées sont nées dans les marges.
Hein. Voilà, exactement. Et donc ces expériences-là me semblent très importantes, mais elles n'empêchent pas de se battre au jour le jour pour aboutir, en somme, à des États qui soient plus démocratiques et plus sobres.
Et alors, en fait, je ne le savais pas, mais je suis avec un type dangereux, parce que vous avez été fiché donc, aux renseignements généraux, quand même. Hein, parce que vous pouvez inspirer donc, une jeunesse ou pas une jeunesse avec des écrits.
Oui, c'est presque réconfortant, d'une certaine façon. Un des jeunes gardés à vue récemment... dans l'affaire de, je me souviens plus si c'est Lafarge ou Sainte-Soline, on lui a demandé, les renseignements généraux lui ont demandé si il croyait vraiment à ce que j'écrivais.
On lui a dit, vous avez lu du Descola.
Vous avez lu Descola, est-ce que vous pensez que c'est pertinent? Et donc, d'une certaine façon, c'est réconfortant de penser que, en tout cas, les renseignements généraux imaginent que je puisse avoir la moindre capacité d'agir, alors que ces jeunes gens qui se battent magnifiquement pour éviter la dévastation de la planète sont inspirés essentiellement par ce qu'ils voient autour d'eux, plus autant que par ce qu'ils lisent, et peut-être beaucoup moins que par ce qu'ils lisent.
Oui, oui.
Donc je considère que ça fait partie des éléments de distinction qu'on m'a accordé de toute nature au cours de ma carrière, de finir comme un éco-terroriste.
Oui, quand même. J'ai toujours un peu l'impression... Je répète ça souvent, hein, mais que c'est un peu comme la comtesse du Barry lorsqu'elle monte à l'échafaud en disant « Encore une minute, s'il vous plaît, monsieur le bourreau ». Vous voyez, on est un peu dans ce système, même si on sait qu'à un moment, ça va bloquer. Quoi, même si ça nous a fait un bien fou, ça nous a fait nous développer, tout ce que l'on veut, etc. Sans d'ailleurs trop nous interroger sur la notion même de progrès. Mais donc, il est passé avant tout par la marchandisation, par la consommation et l'ultra-consommation. Mais on est là, on est sur un moment de bascule, quoi.
Mais je pense que, pour revenir à ce qu'on disait auparavant, ce qui est important, c'est savoir qu'est-ce que c'est qu'une vie bien menée. Et le progrès, c'est un progrès qui est conçu en termes de développement de matériel, de l'accumulation de biens. Et on peut, par exemple, se souvenir du fait que les chasseurs-cueilleurs, qui transforment relativement peu leur environnement... Les chasseurs-cueilleurs, on a pu montrer que le bien-être, en quelque sorte, pour eux, à savoir, en l'occurrence, l'alimentation qu'ils se procurent, en termes de quantité, c'est-à-dire en termes de calories, en termes de qualité, en termes donc de protéines, de vitamines, etc., était la plupart du temps très supérieure à celle de populations paysannes dans beaucoup des pays du Sud. Autrement dit... les chasseurs-cueilleurs, qui auraient, pour certains d'entre eux, pu devenir des agriculteurs s'ils l'avaient souhaité, ont préféré maintenir un mode de vie qui leur laissait une certaine liberté et qui satisfaisait à leurs besoins, sans que ces besoins soient imaginés comme étant l'accumulation irréfléchie de quantités de biens qui étaient de toute façon pas transportables. Donc cette idée-là est importante, c'est-à-dire... au fond, c'est une idée philosophique par excellence. La philosophie, c'est la réflexion sur ce qu'est la belle vie, en somme. Et on a eu tendance un peu à l'oublier et à ne pas se poser cette question. On n'a pas suffisamment conscience à tout moment de nos actions sur l'état du monde, en quelque sorte. C'est-à-dire que nous ne prenons pas conscience du fait que nous sommes responsables de l'état du monde. Et ça, c'est quelque chose de très caractéristique de ce que j'appelle le naturalisme. Dans d'autres civilisations, les humains ont conscience de ce qu'ils font Nous le savons intellectuellement parce que on nous le dit, parce que nous l'avons lu.
Bah, on a inventé quand même l'empreinte écologique.
Oui, bien sûr, mais ça n'est pas en permanence quelque chose auquel nous pensons.
Non, c'est pas une boussole.
C'est pas une boussole comme la précaution que la plupart d'entre nous prenons de ne pas trop dépenser d'argent lorsqu'on fait un achat, etc. C'est-à-dire de calculer en termes de coûts et bénéfices. Ouais. Calculer en termes de coûts et bénéfices pour la planète, ça voudrait dire avoir constamment le sentiment que lorsque nous faisons un acte, cet acte va engager non pas simplement nous-mêmes, mais des myriades de chaînes de rétroaction entre nous et le monde. Et que de ce point de vue-là, chaque acte que nous menons a des conséquences qui dépassent de beaucoup la simple action que nous faisons. Ouais.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Philippe Descolard ?
Ah bah d'arriver à faire prévaloir la justice et la raison dans un monde qui en manque singulièrement.
Que l'on puisse choyer, on va dire, ces diversités, qu'elles soient intellectuelles, culturelles, animales, végétales.
Linguistique aussi. Linguistique. La diversité des langues, c'est quand même quelque chose d'admirable.
Et bien, à très bientôt. Et merci pour votre générosité et votre accueil. Merci Philippe Descolard dans ce Lot.
Merci à vous. Au revoir. Bon retour de Nichesou.
Merci encore, et ça évidemment ça me rappelle aussi quelques mots de Jean-Marie Pell, ça c'est un point commun avec eux quand il disait que le monde vivant ce n'est pas nous qui l'avons fait, mais c'est lui en tout cas qui nous a fait. Voilà, et puis on aurait aussi une pensée vers Bruno Latour qui était un grand ami de Philippe Descola. Merci à Pauline Laverdure, à Pierre Chabert, à Juliette Gou qui a réalisé et colorisé cette émission, à Thierry Dupin qui a choisi les disques. La semaine prochaine, un peu d'embrun, ouais, un peu d'embrun du Sud, je vous emmène dans le parc national des Calanques. Ouais, on sera pas loin de Marseille, donc vous l'avez compris, mais pas Marseille. Avec à la menthe, et on va découvrir encore un autre univers. Possibilité donc pour vous de réécouter cette émission, ainsi que celle d'Escola et des autres, enfin voilà, sur l'application Radio France, vous en avez l'habitude, celle de France Inter. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, on peut se retrouver sur Instagram, etc., mais il n'y aurait plus qu'à vous souhaiter l'essentiel, c'est-à-dire un excellent dimanche.